Pour ceux qui ont déjà reçu Jésus dans leur cœur, et elle demande à cela de faire une confession de péché à Dieu, et même d'aller demander pardon aux frères ou aux sœurs qu'on aurait pu offenser. Prions. Les dons d'esprit. Et nous avons vu qu'il y avait plusieurs catégories de dons. Fondés sur notre étude de la Bible, nous avons la conviction que les dons sont encore valables aujourd'hui. Et que trop souvent, on hésite à les pratiquer. Par manque de connaissances. Et notre connaissance, elle ne vient pas de tradition de telle ou telle église. Nous essayons du mieux que nous pouvons de la trouver dans la parole de Dieu. Et nous avons vu qu'il y avait plusieurs types de dons. Il y avait des dons de service. Il y avait des dons de soutien. Les dons de soutien, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, enseignants. Et tous ces dons sont amplifiés par l'exercice parallèle des dons signes. Sign gifts, qu'on appelle aussi des dons de manifestation. J'aimerais qu'on lise ensemble 1 Corinthiens 12, c'est notre passage. C'est page 196 dans la partie du Nouveau Testament, dans la Bible à la colombe. Je lis donc 1 Corinthiens 12, 1 à 13. 1 à 11, pour le moment. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit « Jésus est anathème », et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On a vu que donc dans ce passage, il est question de 9 dons. On a parlé des dons qui se rapportent à la parole, à la proclamation de la parole. On a parlé des paroles de sagesse, paroles de connaissance et prophétie. Puis nous avons parlé des dons d'action, la foi, les dons de guérison et l'opération des miracles. Et aujourd'hui, j'aimerais terminer de voir les trois derniers dons de la liste. Qu'on peut appeler en fait des dons de prière. Qui sont le discernement des esprits, diverses sortes de langues et l'interprétation des langues. Et d'abord, nous allons voir le don de discernement des esprits. Souvent, certains pensent avoir ce don parce qu'ils critiquent tout ce qui se passe autour d'eux. C'est pas ça. Ça, c'est un don dont le corps de Christ se passerait volontiers. Non, une définition proposée pour le don de discernement des esprits, c'est une capacité surnaturelle de voir si une manifestation spirituelle, que ce soit une action, un enseignement, un ministère, est-ce que cette manifestation est d'origine divine ou simplement humaine ou pire encore démoniaque. Le mot discerner, ça veut dire dans le langage original juger au travers. Donc c'est de retrouver la réalité cachée derrière une apparence extérieure. C'est ne pas se laisser tromper par les apparences. C'est percevoir les vrais motifs de ce qui est fait ou dit. Il y a le même mot qui est utilisé dans l'Épître aux Hébreux, où l'auteur dit que les chrétiens mûrs ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Ça, c'est Hébreux 5, 14. Et en fait, tous les chrétiens doivent faire preuve de discernement. Et nous avons une arme pour cela. La parole de Dieu. J'aimerais qu'on lise ensemble Hébreux 4, 12. Page 248, à la fin de la Bible à la colombe. Page 248, in the blue Bible, at the end. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Tous, nous devons utiliser la Bible comme référence finale. C'est bien d'écouter ce que j'expose, ce que je dis, mais c'est bien plus important encore d'aller voir vous-même dans la Bible ce que la parole de Dieu déclare vraiment. Avec moi, c'est facile, vous allez le faire, vous allez aller voir dans la parole. Mais il y a peut-être des grands prédicateurs, vous les entendez et vous les croyez sur parole. Par exemple, si l'apôtre Paul vous parlait, Vous n'iriez pas nécessairement voir s'il a bien interprété la Bible. Et pourtant, l'apôtre Paul lui-même se félicitait de ce que son auditoire allait voir après s'il avait bien dit la vérité. Dans Actes 17, verset 11, Paul parle des Béréens. Ce n'était pas des gens qui portaient des bérets. C'était simplement des gens qui habitaient la ville de Béret. Et il dit au verset 11, en parlant de ces gens, ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et nous vivons dans une période, je crois qu'on se rapproche de plus en plus des jours de la fin. Et la Bible nous annonce que de plus en plus nous aurons de faux prophètes, de plus en plus de faux enseignements qui circuleront même parmi les chrétiens. Dans l'apôtre Jean disait dans 1 Jean 4, 1, page 271, c'est pas la peine de vous y tourner, vous pouvez écouter. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, le chrétien mûr doit exercer le discernement parce qu'il connaît la parole. Mais à côté de ce discernement que tout le monde doit exercer, il y a un don de discernement. Les personnes qui ont ce don spécial ont une sensibilité aiguë dans ce domaine. Ils ont comme un détecteur de radar ou un radar. S'il y a quelque chose, une tromperie spirituelle, alors, c'est comme des petits feux rouges qui clignotent dans leur esprit. Et ça, c'est un don très important pour la santé de l'Église. Vous savez que dans le corps, ce sont les globules blancs qui vont détecter une infection. Et faire en sorte que ça ne se propage pas à tout l'ensemble de l'organisme. Et bien sûr, l'idée, c'est pas d'être paranoïaque, mais de réaliser que il peut y avoir un danger, et que de toute façon, Jésus est là pour nous protéger. Donc, pas de chasse aux sorcières. Le problème, c'est qu'il y a Satan lui-même, nous dit la parole, peut se déguiser en ange de lumière.
Is,
dans 2 Corinthiens 11, Paul nous dit, parlant des faux prophètes, c'est page 210, déclare, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Et le problème, c'est que justement Satan est capable de contrefaire chacune des manifestations spirituelles. Dans 2 Thessaloniciens 2, il est dit que l'avènement de l'impie, c'est-à-dire l'antéchrist, se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc il y a ce danger, et même Jésus lui-même nous met en garde dans le sermon sur la montagne. Il nous dit, gardez-vous, dans Matthieu 7, 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Ça fait un peu peur, mais Jésus nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Donc nous avons la parole de Dieu pour nous aider. Nous pouvons voir le fruit des actions et des paroles de ces hommes. Et de plus, nous avons au sein des croyants des personnes qui ont ce don de discernement aiguisé. On voit l'exercice de ce don dans le Nouveau Testament particulièrement. Vous vous souvenez de l'épisode de Pierre avec Ananias et Saphira? C'était ces chrétiens qui avaient vendu un terrain et qui avaient donné une partie de la somme reçue. Mais apparemment en faisant croire qu'ils avaient fait le sacrifice de tout donner. Et Pierre, sans connaissance objective, avait reçu ce don. Et il savait en fait qu'il mentait, qu'il faisait semblant d'être généreux au-delà de ce qu'ils étaient. Et on sait la suite tragique, puisque Ananias et Saphira sont morts sur le champ pratiquement. Et il est dit qu'une grande peur révérentielle s'était instaurée parmi les chrétiens. Notre Seigneur Jésus a exercé le mieux les dons de l'Esprit. Il discernait le bien et il discernait le mal. Vous vous souvenez de cette histoire où des amis amènent un paralytique à Jésus pour qu'il soit guéri? Il est dit dans Marc 2 que Jésus voit la foi des amis du paralytique. Il voit le bien qu'il y a dans cette foi. Et en même temps, il est dit qu'il il sait ce qu'il y a dans le cœur des critiques des scribes. Ceux qui murmurent en disant qu'est-ce qu'il va pardonner les péchés. Et donc il voit d'un côté le bien, d'un autre côté le mal. C'est ça le discernement du bien et du mal. Et encore une fois, c'est pas le don de connaître le passé des gens. De chercher toutes les fautes passées, présentes et à venir. C'est un don qui doit protéger l'organisme entier. Ça, c'est donc le don de discernement. C'est un don qui aide dans la prière, parce que bien souvent la meilleure façon de contrecarrer une attaque, ça peut être soit de dire aux gens de partir, soit de prier si c'est quelque chose dont ils ne sont pas consciemment responsables. Voilà. Parlons du don de parler en langue, diverses sortes de langues. Je proposerai une définition. C'est un langage de prière et de louange donné par le Saint-Esprit pour permettre à notre esprit de communiquer avec Dieu. Ce n'est pas un langage que l'on a appris ou que l'on a reçu par éducation. Paul parle que s'il avait reçu le langage des hommes ou le langage des anges, il continue dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Mais cette allusion permet de penser qu'il y a peut-être un langage de parole, un parler en langue qui est une langue humaine qui existe quelque part, qu'on ne connaît pas soi-même. Ou alors ça peut être un langage qui n'est parlé par aucune autre tribu de la terre. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde est d'accord sur un fait. Aucun autre don spirituel ne porte autant à controverse. Des mouvements chrétiens se sont divisés, déchirés. Et lorsqu'on vient de lire 1 Corinthiens 12, on sait que l'Esprit Saint doit spirituellement se tirer les cheveux. Que l'on se divise sur ce don qui est fait pour servir. Pour simplifier, on peut dire qu'il y a deux positions extrêmes. D'un côté, il y en a qui disent que si vous ne parlez pas en langue, alors vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint. Et ils remettent même en cause votre salut. Et de l'autre côté de l'éventail, il y en a qui pensent que tout parler en langue est d'origine démoniaque. Et dans ces milieux, parler en langue est même interdit. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Corinthe même, c'était déjà un problème. Et c'est pour répondre justement à cette question que Paul écrit 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Première objection, si vous ne parlez pas en langue, vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint, vous n'êtes pas sauvé. Juste le verset qui suit le passage que nous avons lu, 1 Corinthiens 12, 13. Il est dit que c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, le corps de Christ, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et comment est-ce qu'on est abreuvé de l'Esprit Saint? Comment est-ce qu'on boit de l'Esprit Saint? Jésus, dans Jean 7, 38, page 113. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. On reçoit donc l'Esprit Saint en mettant notre foi en Christ, en croyant en Jésus-Christ. Nous avons parlé au début de cette étude d'une autre relation, de la relation où l'Esprit Saint vient sur nous pour nous donner la puissance de le servir. Mais là aussi, même avec cette relation, on n'est pas tous censés parler en langue. Paul, dans 1 Corinthiens 12, 29, pose une question, on appelle ça une question rhétorique, c'est-à-dire qu'il pose une question et il y répond lui, avec une réponse sous-entendue. Il dit tous, verset 29 du chapitre 12, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous font-ils des miracles, tous ont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Puis il nous encourage à aspirer aux dons les meilleurs. Ces questions, la réponse évidente, c'est que bien sûr que non, tout le monde n'a pas les mêmes dons. On a vu que le Saint-Esprit donne, selon sa volonté, les dons comme il le désire. Ça, c'est pour répondre à la première objection que si on ne parle pas en langue, on n'est pas sauvé. De l'autre côté, à l'autre extrême, toutes les langues sont démoniaques.
On the other extreme, that tongue is demonic.
Et on vient de dire que le diable était capable de contrefaire toutes les manifestations spirituelles. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des langues inspirées par les démons. Dans l'Antiquité, il y avait des oracles de Delphes, des dieux de mythologie, et il y avait des gens qui parlaient des langues inconnues. J'ai un ami, nous avons des amis qui travaillent comme missionnaires en Chine, ils nous ont montré un film. Où l'on voit justement des chamans possédés par des démons parler des choses bizarres. Et ils nous ont assuré que ce n'était pas le chinois qui parlait. Donc, il y a ce danger, mais ce n'est pas encore une fois la peine d'être paranoïaque. Et Paul, on le voit dans 1 Corinthiens 14, parle des langues d'une façon très, très positive. Il dit dans 1 Corinthiens 14, 5, « Je veux que vous parliez tous en langue. » Il dit dans, au verset 39, « N'empêchez pas de parler en langue. » Et lui-même déclare qu'il a ce don. 1 Corinthiens 14, 18, il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Donc on voit que ces deux positions sont une source de division parmi les chrétiens. Et c'est un peu comme si l'Esprit Saint avait inspiré Paul de mettre le chapitre 13 entre le chapitre 12 et le chapitre 14. C'est une palissade, vous me direz. It's an obvious thing. Mais en fait, le chapitre 13, c'est le chapitre de l'amour. Paul, dans le premier verset, dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. » La vraie preuve que l'Esprit Saint est en nous, c'est l'amour. Dans Romains 5, 5, Paul dit que l'amour est versé en nous par l'Esprit Saint. À Corinthe, il y avait des problèmes de la façon dont ce don était pratiqué. Et Paul n'en interdit pas l'exercice, au contraire, il veut corriger l'exercice de ce don. Et nous-mêmes, parce qu'il y a des abus, ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter complètement ce don. C'est un peu comme si, parce qu'on voit des gens obèses qui sont malades dans la rue, on décide de ne plus manger, de rejeter complètement ce don parce qu'il y a eu des extrêmes où il cause des divisions, n'est pas la solution. Parce que ce don a
a des bénéfices. Il y a des fois où on se sent inspiré de prier pour quelqu'un. Et si on prie en langue, on peut prier selon la volonté de Dieu sans connaître la situation en détail. Paul dit que quand il prie en langue, son esprit est pris, mais son intelligence est stérile. Ça veut dire que son intelligence, sa logique est court-circuitée. Ça permet de pouvoir prier sans cesse. Parce que notre intelligence peut s'occuper de quelque chose d'autre. Un autre ennemi de la prière, c'est le doute. Si je prie pour quelque chose avec mon intelligence, le doute peut s'en emparer et dire non, ça ne va jamais se réaliser. Mais si c'est mon esprit qui communique avec l'esprit de Dieu, sans que mon intelligence soit au courant, le doute ne peut pas intervenir. Il y a aussi un des bénéfices principaux, c'est que souvent nous arrivons à la limite de notre vocabulaire lorsque nous prions Dieu. Il y a des mots, on veut exprimer notre gratitude, notre amour de Dieu, et les mots ne correspondent pas. On a quelque chose d'indicible à dire, et justement le langage un parler en langue permet d'aller au-delà de cela. Il est dit dans 1 Corinthiens 14 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est-à-dire se fait du bien, se construit, mais celui qui prophétise édifie l'Église. 1 Corinthiens 14, 4. Alors certains disent en fait ce don c'est un don égoïste. Mais prier, lire la Bible soi-même, on pourrait dire que c'est égoïste. Nous avons une responsabilité de nous édifier nous-mêmes. Il est écrit dans 1 Samuel que David se fortifia dans l'Éternel. Si nous sommes forts, alors nous pouvons donner. Paul, dans ce passage de 1 Corinthiens 14, dans le chapitre, fait une distinction entre l'exercice privé du don des langues et l'exercice en public. Dans l'exercice privé, il ne mentionne aucune limitation. Et c'est là que Paul exerçait son don. Mais en public, il veut corriger ce qui se passait à Corinthe. Il permet l'usage avec des limitations précises. Il est intéressant de remarquer que ces versets sont très clairs et pourtant certains mouvements les ignorent complètement. Et ça, c'est souvent parce qu'il y a une tradition. Mais il est dit qu'il doit y avoir une interprétation, sinon il faut garder le silence.
Otherwise, they should keep silent.
dans le verset 28 du chapitre 14, il dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Il invite même à prier pour le don d'interprétation qu'on va voir. Au verset 5 du chapitre 14, il parle que si la personne qui parle en langue peut interpréter, alors toute l'Église en bénéficie. Et au verset 13 du même chapitre, il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Une deuxième règle, c'est que dans un service, il souhaite que ce soit restreint, qu'il y ait deux ou trois au plus qui parlent en langue avec interprétation. Et au verset 23, il dit que si tout le monde parle en langue, les non-croyants qui peuvent venir vont penser qu'on est fou. Et donc au verset 27, il précise, si l'un parle en langue, tout au plus deux ou trois, et encore chacun à son tour, qu'il y en ait un aussi qui interprète. Un point intéressant aussi à remarquer, c'est que un parler en langue, ça va du croyant à Dieu. Et non pas de Dieu vers l'Église. Le verset 2 du chapitre 14 dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et il y a des églises où des fois on entend quelqu'un parler en langue et il y a une interprétation qui est proposée. Et souvent l'interprétation, c'est un message de Dieu pour l'Église, pour encourager l'Église. Ce verset 2 montre que c'est pas vrai, c'est pas le cas. Ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un parler en langue, une parole en langue. Et ce qui est proposé comme une interprétation est en fait une prophétie. Nous avons vu les prophéties où c'est Dieu qui peut encourager l'Église. Donc dans ce cas, le parler en langue peut être authentique. Mais c'est l'interprétation qui est mauvaise. Alors qu'est-ce que c'est que cette interprétation des langues? C'est une capacité de donner une traduction, pas nécessairement mot à mot, de la prière en langue, qui va expliquer le contenu de cette prière pour qu'on puisse dire Amen à cette prière. Pas nécessairement mot à mot, parce que des fois on compte le nombre de syllabes qu'on a entendues dans le parler en langue et puis on dit mais comment ça se fait que l'interprétation est beaucoup plus courte ou beaucoup plus longue. Et pour en venir en général à ce don du parler en langue, on voit que Paul nous encourage à le désirer surtout pour notre prière personnelle. Il dit au verset 19, du chapitre 14. Dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Donc c'est très fort. Il dit la parole le parler en langue au sein de l'Église, c'est pas ce que j'encourage. La question aussi, c'est est-ce un don que nous pouvons tous recevoir? D'abord, il faut le désirer, il faut se dire oui, ça serait bien pour ma vie de prière d'avoir ce don, de pouvoir parler à Dieu sans l'intermédiaire de mon esprit, de mes doutes. Si Paul nous dit qu'il désire que nous parlions tous en langue, on peut penser que c'est parce que c'est possible quelque part si on prie à Dieu et qu'on lui demande ce don. Mais c'est par la prière et par la foi que l'on peut recevoir ce don. Dans Actes 2, 4, il est dit que les disciples qui étaient rassemblés furent remplis d'Esprit Saint et ils se mirent à parler.
In Acts 2, verse 4, it says that the disciples were filled with the Holy Spirit and they began speaking with other tongues.
Et donc il faut avoir la foi,
and so we have to have faith,
désirer ce don.
And we have to have the desire.
Et puis il faut se jeter à l'eau. Et croire que ce qu'on reçoit est authentique. C'est beaucoup plus aisé à faire lorsqu'on est dans la prière soi-même. Parce que Satan est rapide à dire, oh mais tu fais semblant. Ce n'est que du charabia. Gobbledygook. Gobbledygook. Il faut marcher dans la foi. Et chacun des dons, chacun des ministères que nous exerçons, il y a toujours un moment où il faut croire que Dieu nous encourage à le faire. Ce matin encore, je vais me mettre mal à l'aise, mais j'étais heureux de voir que Tonio était là à jouer de la guitare devant l'assemblée. Il y a un moment où il a dû vaincre sa peur et dit bon, ben je peux le faire, je crois que je vais y arriver. Et c'est la même chose pour tous les dons que nous pouvons recevoir de l'Esprit Saint. Il faut les essayer. Croire que par la foi que Dieu nous les donne. Et si ce n'est pas le cas, Dieu aura vite fait de nous montrer qu'on s'est trompé. Mais ce qui compte encore, on voit combien Paul prêche l'équilibre dans ses dons. Comment il prêche l'amour dans ses dons. Certains peut-être ne partagent pas vos convictions. Peut-être que vous ne partagez pas mes convictions sur les langues et sur les dons. Mais ça ne doit pas tuer l'amour. Le fait que Jésus... On connaît le Seigneur Jésus qu'il est mort pour nous pour nos péchés sur la croix.
Us,
qui, qu'il va revenir, que nous avons la vie éternelle avec lui. Nous aurons la vie éternelle pour débattre de ces questions avec des réponses fermes et définitives. Mais encore une fois, je vais vous rappeler, c'est, je crois que c'est le verset principal à se souvenir dans cette étude des dons spirituels. C'est Luc 11. Verset 11, page 80 du Nouveau Testament. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Et l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 4, 2, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas.
Et
dans la lettre de James, il dit, on a vu que les dons de l'Esprit, c'est pour construire l'Église, c'est pour construire le corps de Christ, pour servir. Ce ne sont pas des jouets pour s'amuser ou se mettre en valeur. Mais surtout, ça ne doit pas être une arme pour nous détruire et nous déchirer. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Et Seigneur, quand toutes ces choses, ce soit l'amour qui prévale. Peut-être nous n'avons pas raison. Peut-être nos frères ont raison ou n'ont pas raison, qu'ils soient d'un extrême ou d'un autre. Mais Seigneur, ne permets pas que ce sujet soit un sujet de discorde. Donne-nous d'être d'accord pour ne pas être d'accord sur ce sujet, Seigneur. Mais Seigneur, tu veux bâtir ton Église. Et je sais que tu nous donnes ces dons pour nous aider dans cette tâche. Aide-nous, Seigneur, à te prier, à te demander de nous donner des dons. Pas pour nous être exaltés nous-mêmes, mais pour que la gloire te revienne. Seigneur, nous t'en remercions par le nom de Jésus. Amen. Et je voulais, juste pour terminer, c'est pas pour mettre personne mal à l'aise, mais c'est peut-être pour certains qui ont été interpellés par la prière de Stéphanie pour ses oncles. Et en fait... Je sais que certains prient pour les personnes qui sont déjà décédées. Et ça montre combien l'amour, combien on voudrait qu'ils soient avec le Seigneur.
shows how much love we have for them and how strongly we desire that they would be with the Lord.
Mais là encore, c'est une opinion personnelle que nous tenons. C'est qu'en fait, lorsque les personnes sont c'est avant que les personnes ne meurent qu'on peut prier qu'elles connaissent le Seigneur de tout leur cœur et qu'elles soient sauvées. Certains pensent que la prière, parce que Dieu est en dehors du temps, la prière peut être même rétroactive, dans un sens. Donc encore une fois, Stéphanie, ce n'est pas pour te mettre mal à l'aise, j'espère que tu le prends bien. Mais c'est pour dire que nous-mêmes ne faisons pas de prière pour les morts. Mais je sais que le Seigneur voit ton cœur et il voit combien tu les aimes et qui sait.
And he loves you.
Prions.